Études sur Cantique. Olivier et l'autre Laurent.
Je te connais, oh Jésus. Te connais. Il n'y a rien de meilleur. Toi, mon Dieu, mon seul bien, ma vraie joie et ma justice. Oh Seigneur.
Bonsoir à vous tous, vous qui êtes fidèles à cette émission. Nous sommes encore présents sur cette antenne pour vous faire écouter un chant, un cantique qui nous amènera à comprendre que nous devons être déterminés jusqu'à la mort pour servir le Seigneur. Mais bien avant cela, je voudrais bel et bien vous rendre grâce à Dieu du fait que nous sommes encore en vie. C'est Dieu qui nous a gardés en vie. Oui, durant toute la semaine, il a été avec nous, il nous a soutenus dans nos différentes courses et démarches. Il était présent lorsque nous étions en train de travailler. Même ceux qui sont restés à la maison, le Seigneur, notre Dieu, était avec eux. Que le nom de Dieu soit loué. Alors, sans plus tarder, je vais vous faire écouter le chant qui fera objet d'études sur Cantique à l'émission de ce jour. Le chant est intitulé « Jusqu'à la mort ». Écoutez cette chanson.
Jusqu'à la mort, mon Dieu seul, on t'y t'aime. Jusqu'à la mort, tu seras notre roi. Sous ton drapeau, Jésus, tu nous appelles. Nous y mourrons avec lui. Jusqu'à la mort, jusqu'à la mort, mon Dieu seul, on t'y t'aime. Jusqu'à la mort, tu seras.
Étudierons cet après-midi dans cette émission. Le cantique est composé en tout et pour tout de 5 couplets, autant pour moi, et d'un refrain. Et je suis avec notre bien-aimé Laurent, l'autre Laurent. Bonsoir.
Oui, bonsoir Olivier.
J'espère que tu as passé de bons moments cette semaine.
Oui, avec l'aide de Dieu, bien entendu.
Très bien. Alors, on va y aller jusqu'à la mort. Est le chant qu'on va étudier en ce jour. Alors, donne-nous les paroles de cette chanson.
Là, le premier couplet de la chanson dit « Jusqu'à la mort, nous te serons fidèles. Jusqu'à la mort, tu seras notre roi. Sous ton drapeau, Jésus, tu nous appelles. Nous y mourrons en luttant avec foi. » Deuxième couplet, « Pour toi, Jésus, on est heureux de vivre. Tous les chemins avec toi semblent doux. Agneau de Dieu, qui nous voudrait te suivre jusqu'à la mort, toi qui mourus pour nous. » Troisième couplet, « Jusqu'à la mort, soumis à ta puissance. Nous voulons vivre et mourir sous tes lois. Toi qui pour nous poussa l'obéissance jusqu'à la mort et la mort de la croix. » Quatrième couplet, « Mais ô Sauveur, tu sais notre faiblesse, nous tomberons sûrement en chemin. Si tu ne viens accomplir ta promesse jusqu'à la mort, nous tenir par la main. » Cinquième couplet, « Que ton esprit nous guide et nous anime, et que sa flamme, embrasant tous nos cœurs, nous devenions par toi sainte victime. » Sur la mort même, un peuple de vainqueurs. Le refrain dit ceci, jusqu'à la mort, c'est notre cri de guerre, le libre cri d'un peuple racheté jusqu'à la mort. Nous aurons pour bannière ta croix sanglante au Christ ressuscité.
Jusqu'à la mort, tu seras notre roi. Sous ton drapeau, Jésus, tu nous appelles. Nous y mourrons avec lui. Jusqu'à la mort, nous te serons fidèles. Jusqu'à la mort, tu seras notre roi. Sous ton drapeau, Jésus, tu nous appelles. Nous y mourrons avec toi. Jusqu'à la mort, c'est notre cri de guerre, le libre cri d'un peuple racheté. Jusqu'à la mort, nous aurons pour bannière ta croix sanglante au Christ ressuscité. Pour toi, Jésus, on est heureux de vivre tous les chemins avec toi.
L'autre Laurent, qui est l'auteur de ce chant? Qui a chanté ce cantique jusqu'à la mort? Là, c'est interprété par un certain Grégory Toussaint, mais qui est le véritable compositeur de cette chanson-là?
Bien, la chanson est l'œuvre de Ruben Silence. Il est né à Saint-Jean-du-Gard le 24 juin 1855. Dans une famille modeste, est devenu orphelin de mère à l'âge de 2 ans, et il a été élevé dans une atmosphère de piété évangélique. Son père, Auguste François, s'est converti peu d'années avant sa naissance à une réunion des frères mouraves, et est devenu un témoin actif de l'évangile. Donc Ruben, fils unique, s'est cultivé lui-même et très doué à développer en particulier le don oratoire. Sa grand-mère maternelle, elle, était engagée dans le milieu darbiste, le mouvement de Jean Darby, connu pour son biblicisme strict et sa piété exigeante et austère. Donc c'est dans cette atmosphère qu'il a grandi. Il se convertit au christianisme évangélique lors d'un mouvement de réveil organisé par l'UCJG, Union Chrétienne de Jeunes Gens. Et bien qu'il ait fréquenté des églises évangéliques libres, avec le temps, il découvre dans sa jeunesse que les croyances baptistes reflètent mieux ses propres convictions. Donc, après avoir étudié à l'East London Missionary Training Institute entre 1873 et 1874, puis après avoir rejoint Robert McCall dans son ministère parisien, il est ordonné le 18 août 1879. En 1888, il fonde une église baptiste à Paris. En 1905, fatigué par les querelles intestines, il prend ses distances avec les églises baptistes françaises et commence à prêcher principalement dans des cadres interconfessionnels, que nous appellerons aujourd'hui interdénominationnels, en France et en Suisse. Il épouse Jeanne Crétin le 1er août 1877 et en octobre 1921, il fonde l'Institut biblique de Nogent-sur-Marne, dans la banlieue est de Paris, une école pour pasteurs et missionnaires. Il a également écrit un certain nombre de pamphlets, d'articles, de livres, dont L'âme de la France, qui a été publié en 1916, et Le mystère de la foi en 1931. Poète, il a adopté, écrit et traduit environ 250 hymnes et cantiques rassemblés dans le recueil intitulé « Sur les ailes de la foi ». Dès 1888, il publie un livre de fables, d'allégories à l'intention des ouvriers sans instruction parce qu'il cherchait à les gagner. Et de mémoire, Émile Guillaume Léonard, qui a longtemps été doyen du département des sciences religieuses à la Sorbonne, dit ceci au sujet de Silence et a déclaré que sa génération avait été fascinée par des pasteurs revivalistes comme Ruben Silence qui avait tant de talent qu'ils portaient en eux un sentiment d'espoir comme s'ils pouvaient faire descendre le feu du ciel. Voilà de façon ramassée ce que nous avons sur l'auteur du Cantique.
Très bien. Bon, on va aborder rapidement... Le commentaire de la chanson, le premier couplet, dès l'entame de cette chanson-là, l'auteur exprime à Dieu son engagement et sa détermination. Si j'ai lu le premier couplet, il dit « Jusqu'à la mort, nous te serons fidèles. Jusqu'à la mort, tu seras notre roi. Sous ton drapeau, Jésus, tu nous appelles. Nous y mourrons en luttant avec toi. » Alors, de tels engagements, il a pris de tels engagements. Alors, quels sont ces engagements-là? C'est rare aujourd'hui que les chrétiens décident de cette façon-là et de dire que jusqu'à la mort, ils vont servir le Seigneur. De quel engagement s'agit-il?
Bien, l'engagement-là, c'est clair. Hein, c'est que le chrétien, selon le test, a une posture jusqu'au boutiste. Il est déterminé à finir la course en étant fidèle au Seigneur. Et l'image qui a été utilisée, c'est l'image de l'appel sous le drapeau, la couleur. C'est-à-dire l'image des recrues. Lorsque les gens s'engagent dans l'armée, un jour vient où, de façon solennelle, le drapeau du pays leur est présenté. Et ce drapeau symbolise le pays, la nation, la patrie. Et ces recrues prennent donc la décision en âme et conscience et de façon solennelle de mourir pour la patrie, de mourir pour la nation, de mourir pour le pays. Donc c'est cette image qui a été utilisée ici. Et en réalité, c'est cette conviction-là que les disciples du premier siècle avaient, parce qu'ils savaient... En s'engageant, ils savaient à quoi il fallait s'attendre. D'accord? Donc, c'est en connaissance de cause que l'on prêchait l'évangile aux gens. C'est-à-dire qu'on leur disait, écoute, voilà ce que Jésus est venu faire pour toi, si tu l'acceptes, voilà de tels désagréments que tu pourras expérimenter. Donc, ces gens savaient à quoi s'attendre. D'accord? Et la persécution, ou l'humiliation, et même le martyr. Et même le martyr. Et là, ça, c'est clairement écrit dans le Nouveau Testament. Et alors, tu as posé la question de savoir... Pourquoi de telles déterminations sont rares de nos jours, n'est-ce pas? Oui, mais parce que l'évangile qu'on nous a présenté, le Christ qu'on nous a présenté, est différent du Christ du Nouveau Testament. Le Christ du Nouveau Testament, il est non seulement le Sauveur, mais il est le Seigneur. Et sa parole, sa volonté s'impose à nous aussi longtemps que nous voulons marcher sous ses ordres. Donc ici, quand je prends par exemple Luc chapitre 14 verset 26, si quelqu'un vient à moi, personne ne le force. Si quelqu'un décide en son âme et conscience, après avoir écouté l'évangile, et compris que si je m'engage en ça, il va y avoir des réactions contre moi. Si quelqu'un vient à moi, et s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ici il n'a pas dit ses femmes, sa femme, ses enfants, ses frères, ses soeurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Si Jésus, un jour, choisit que dans toutes les églises, on distribue des fiches aux membres en disant, il faut cocher. Jusque-là, dans ce verset, quelle partie tu as?
En quoi t'as pas le critère que tu ne remplis pas.
Voilà. Là, vous allez voir que les gens vont rentrer chez lui. Même le pasteur qui tend les fiches, là, lui aussi va rentrer chez lui. Parce que, bon, au-delà de tout, les gens n'ayant pas compris s'il ne hait son père, aujourd'hui, quand les gens se convertissent, ils pensent que leur papa qui n'est pas converti, leur maman qui n'est pas convertie, c'est des païens, c'est des sorciers. Donc, il faut, et même de jeunes gens qui sont dans le ministère aujourd'hui, on dit, ah, le problème que tu as, c'est ta mère qui est sorcière, c'est ton père qui est sorcier. Et après, donc, de ce fait-là, ils prennent en aversion leurs parents. Et ils veulent appliquer ce verset-là. Ce verset est en train de parler de l'amour, les différents niveaux d'amour. L'amour familial, là, quand nous venons au monde, les deux premières personnes qui nous influencent, ce sont nos parents, papa et maman. Ensuite, l'amour sentimental, quand on rentre dans le mariage, là, c'est la femme. Et après, quand on a des enfants, tout le monde aime ses enfants, n'est-ce pas? Maintenant, les frères et sœurs. Et quand on prend tout cela ensemble, maintenant, l'ego étant ce qu'il est, chacun d'une manière ou d'une autre aime sa propre vie. C'est pour cela que nous sommes égoïstes. C'est pour cela que nous agissons sur fond d'intérêt personnel. Jésus dit, lorsque tu prends l'amour des parents, l'amour de ton épouse, l'amour de tes enfants, l'amour pour tes frères et sœurs avec qui tu as grandi ensemble, et ta propre vie, lorsque ma parole se présente à ces différents niveaux d'amour, si tu ne peux pas choisir de m'obéir, tu n'es pas propre, tu n'es pas digne d'être appelé mon disciple. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ne peut être mon disciple. Ça, là, je peux vous garantir que sur les 52 semaines d'une année, et avant qu'une année ne finisse, vous n'entendrez pas ce verset cité deux fois dans votre église. Examinez, si vous avez les calepins, vous avez consigné les messages de vos pasteurs, examinez, vous allez voir, parce qu'on ne parle plus de ces choses aujourd'hui. C'est pour cela qu'on a un genre de christianisme folklorique. Tu as vu la chanson, quand ça passait tout à l'heure là, les gens chantent avec entrain. J'aurais bien voulu que cette chanson ait été composée à la première personne, pour que ça ait plus d'impact sur la personne qui chante. Comme ça, c'est que ce soit une décision que la personne prend. Et même quand Jésus a dit à ses disciples, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, il dit, vous serez mes martyrs. Vous serez mes témoins là, en grec là, une petite leçon de grec.
C'est d'accord.
Témoin, c'est matureo, matureo. Donc, être témoin dans ce cas de figure, c'est porter le témoignage. C'est-à-dire affirmer ce que tu as vu, ce que tu as entendu ou ce que tu as expérimenté. Ou ce que tu connais par ce qui t'a été donné par révélation ou inspiration divine. C'est en cela qu'on est témoin. Si quelqu'un te dit, comment sais-tu que tu es enfant de Dieu? Tu dois être en mesure de dire à la personne, je suis enfant de Dieu parce que ce que l'Écriture dit, je l'ai expérimenté personnellement. Et sur cette base-là, tu es prêt à mourir pour ta conviction. Mais si on n'est pas prêt, bon, là, vous comprenez. Donc, les tests de la vie viendront pour nous montrer où nous en sommes nous-mêmes par rapport à Christ. C'est pour cela qu'au premier siècle, devenir chrétien, mais c'est un grand événement. Et le point culminant, c'est le baptême.
D'abord, tu fais tu témoignes devant un grand nombre de témoins, ça c'est un deux. Tu vas te faire baptiser publiquement. Et là, le jour là, le ciel est témoin, l'enfer est témoin, les hommes sont témoins, les anges sont témoins, les démons sont témoins que tu t'es enrôlé dans l'armée de Jésus-Christ. Est-ce que nous disons ça aux gens aujourd'hui? Ou bien on leur sert des choses, si tu as ça, Dieu demande, il va te donner ça. Cet évangile-là ne tiendra pas sous le feu de l'examen des Écritures. C'est pas possible. L'apôtre Paul est allé jusqu'à dire à Timothée, 1 Timothée 6, 12, combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé. D'accord? Et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Examinons-nous pour voir qu'est-ce qu'on nous a dit avant de venir à Christ. Qu'est-ce qu'on nous a expliqué? Qu'est-ce que nous avons compris? Aujourd'hui, il y a des gens qui parfois ils disent que j'ai dit à Jésus, si tu ne me donnes pas ça, moi je vais repartir. En fait, à l'origine, tu n'étais même pas parmi les disciples. Hein? Tu n'es pas né de nouveau. Parce qu'il n'y a aucun disciple qui menace le Seigneur. Il n'y a personne qui vient lui dire, eh, je t'ai demandé ceci, je te donne 24 heures, je te donne 3 semaines, et si tu ne me donnes pas ça, Seigneur, si tu ne changes pas ma situation, moi je vais me fâcher contre toi. Ça c'est quel comportement ça? Ça c'est pas dans le royaume, ça c'est pas l'attitude. Vous lisez le Nouveau Testament, vous ne verrez pas ça. Donc là, vous comprenez en même temps que ceux qui chantent ça, s'ils sont sincères, ça veut dire qu'ils sont déterminés à être fidèle au Seigneur jusqu'à la fin, jusqu'au dernier souffle. C'est ce qui a valu le martyre de beaucoup de chrétiens au premier siècle. Où on les spoliait de leurs biens, on leur refusait même ce à quoi ils avaient droit, et on leur refusait même la nationalité, la citoyenneté, tout simplement parce qu'ils se sont identifiés à Christ. Donc, voilà, si on n'a pas planté le décor de cette façon en te prêchant l'évangile, c'est tout à fait normal que quand les épreuves viennent, que tu sois maussade, que tu sois morose, que tu te fâches, que tu grommelles, et que tu rases le mur, et que tu fronces la mine, et quand on veut t'encourager, non, et Jésus là, il m'a déçu. Quand quelqu'un dit ça, vous avez, il n'a fait aucune expérience avec le Christ ressuscité.
Très bien. Nous venons d'écouter notre version de cette chanson, interprétée là par la chorale. L'autre, Laurent, nous avons été jusqu'au refrain, qui a fait le commentaire du premier couplet. On va maintenant essayer d'analyser les vers ou les paroles du refrain. Jusqu'à la mort, c'est notre cri de guerre. Le libre cri d'un peuple racheté. Jusqu'à la mort, nous aurons pour bannière ta croix sanglante au Christ ressuscité. Que faut-il en dire?
Oui, mais ici, là, vous comprenez que dans la chanson, la réalité est là. Oui. Nous sommes engagés dans un combat, dans une guerre.
Nous sommes des soldats de Christ.
Des soldats de Christ.
Mm-hmm.
Nous sommes sur le champ de bataille.
Oui.
Maintenant, si vous pensez que c'est de temps à autre que les démons essaient de vous attaquer, vous n'avez rien compris. Vous n'avez pas un aperçu du monde spirituel. Okay. Je vous donne juste l'image, ça va vous aider un peu.
Oui.
Vous êtes quelque part, il y a, je sais pas s'il y a un rassemblement et autres, vous êtes au fond, au sein d'une foule. Vous êtes là et les gens sont autour de vous. C'est comme ça la chose se présente. La première fois j'ai vu ça, les démons, ils sont partout, ces démons-là sont partout.
Ils nous entourent.
Et ils lancent leur attaque à tout moment avec le désir ou bien le... Je ne sais pas comment dire ça. Ils se disent que ce coup-là va réussir. Et l'attaque, c'est au niveau de nos pensées. D'accord? Et lorsque tu prends conscience de ça, tu commences par prier. Quand tu pries beaucoup, celui qui prie beaucoup, qui jeûne beaucoup, qui est ferme dans la parole, c'est comme un rayon autour de toi. Ça dit qu'ils s'éloignent, mais à distance, ils continueront toujours pas attaquer. Donc, faut pas croire que c'est une forme passant qu'un groupe de démons vient te visiter pour t'attaquer. Non, on est sur le champ de bataille. Et cette bataille-là ne prendra fin que quand tu auras quitté ce monde. Aussi longtemps que nous sommes ici, la guerre va continuer. Donc, les pensées qui te viennent là, examine-les. Si ces pensées contredisent la parole de Dieu, ça, c'est une attaque qui est en train de te de nuire. Et tu dois utiliser la parole pour rejeter ça. Si tu acceptes cette pensée, ne serait-ce que je ne sais combien de minutes et autres, là, et que tu commences par réfléchir dessus. De loin, quand ces esprits t'observent, ils commencent par voir l'impact de leur flèche ou fléchette là, dans ta vie. La lumière que tu étais là commence par s'assombrir à petits coups. Donc, ils savent que là, ils sont en train d'avoir de l'impact sur toi. Donc, on n'a pas le temps d'aller dans tous ces détails là, mais comprenez que c'est une guerre réelle. Et on prend des coups. On prend des coups. Certaines des maladies que nous avons parfois, c'est pas juste parce que tu n'as pas fait preuve de délicatesse en matière d'hygiène et autres. Non, il y a des blessures spirituelles qui se traduisent par des maladies, des désagréments dans notre corps. Il y a plein de choses qui arrivent. Même il y a des moments où les gens font de la dépression sans savoir que c'est une attaque. Pour eux, ils vont l'analyser d'un point de vue psychologique. Ils voient un psychiatre, un psychologue. Oui, ça peut arriver, mais il y a des cas comme ça. Donc, comprenez que nous sommes de plein pied dans une bataille. Si on comprend ça, là, c'est là, la personne sera vigilante parce que c'est que... C'est pas le moment de baisser la garde. Si vous baissez la garde, vous allez mourir. Vous serez une victime. Or, Christ a déjà eu la victoire. Normalement, nous avançons dans la victoire de Christ. Mais le chrétien qui n'est pas dans cette posture-là, baisse la garde et devient une proie des puissances des ténèbres. Là, 2 Corinthiens chapitre 5 verset 14, que l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour nous, tous sont donc morts. Et qu'il est mort pour nous, pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Tu vois, ce verset-là, tu le joins au verset que nous avions lu tantôt, là tu comprends. Là, Paul a compris que si un chrétien veut tenir dans cette bataille-là, il doit mourir à lui-même. Et c'est ce que Jésus a dit. Porter sa croix, la croix est un instrument de mort, mais la mort n'est pas instantanée, ça vient graduellement. Donc, on doit apprendre à soumettre nos ambitions, nos désirs, notre philosophie de la vie, notre perspective. Il y a des moments où tu es obligé de dire à Dieu, s'il ne tenait qu'à moi, voici ma décision. Mais en analysant ta parole, voilà ce verset qui contredit ma décision, je me soumets à ta parole. Donc tu vois, c'est comme ça on progresse avec le Seigneur. Et là ils ont dit, jusqu'à la mort nous aurons pour bannière ta croix sanglante. En tant que chrétien, Golgotha c'est notre référence. C'est notre motif, c'est notre motivation. Nous aimons mieux mourir pour le Seigneur que de le trahir en le reniant. D'accord, c'est ce que je dis là, c'est pas un slogan folklorique et émotif. Vous vous souvenez de l'histoire de quoi, Luc 22, 31, où Jésus a regardé Pierre. Tu es avec quelqu'un qui d'un seul coup change de façon de parler. Et ça ne te dit rien. Et il lui dit, Simon. Il a toujours appelé Pierre, non? Et le jour-là, il dit, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Jésus n'est pas en train de vous voir, Pierre, ici. Jésus est en train de parler de tous les disciples. Le diable voulait cribler tous les disciples. Jésus a dit, mais j'ai prié pour toi. Il n'a même pas laissé le Seigneur aller au coin. Il dit, non, Seigneur, je suis prêt à aller avec toi, et en prison, et à la mort. Ah bon? Alors, là, la déclaration prophétique, ça dit, tu vas voir, si tu ne feras pas long feu dans cette lancée-là. C'est pour cela que, dans Jean 21, maintenant, quand Jésus lui dit, tu as dit que tu étais prêt à mourir avec moi, non? M'aimes-tu? Parce que pour commenter le texte, il faut connaître les contextes. M'aimes-tu plus que nous-mêmes, ces autres disciples-là? Ça, c'est un. Donc, Jésus parle de l'amour agapé, Pierre répond pas à l'amour philéo. Jésus parle de l'amour agapé, à un moment donné, il a fini par comprendre. Donc, ces genres de chansons, de cantiques, oui, on peut les chanter avec entrain, mes frères.
Il faut le vivre. Hein.
Ah oui, mais il y a des moments où Dieu va te dire, reprends le cantique et chante-moi ça pour toi-même. Il y a des strophes, tu ne peux pas finir. Parce que les événements de la vie vont te montrer que tu as voulu t'appuyer sur ta propre force. C'est en ce moment que nous échouons. Là, il faut que ce soit clair pour nous. Nous sommes dans une bataille et c'est sous la direction de l'esprit que nous pourrons avancer.
Très bien. Jusqu'à la mort, le chant qui fait objet d'études sur Cantique dans cette émission, avec une question de détermination et d'engagement jusqu'au bout. Maintenant, on va écouter encore la chanson jusqu'à la strophe 2 et on passera au commentaire. Jusqu'à la mort, interprété par la chorale. Jusqu'à la mort, pour toi Jésus, on est heureux de vivre, tous les chemins avec toi semblent doux. Agneau de Dieu qui ne voudrait te suivre jusqu'à la mort, toi qui mourus pour nous. Ce sont là les paroles du couplet 2, l'autre Laurent, le compositeur, est heureux de vivre pour Jésus. Pourquoi?
Oui, mais vous savez, si on a bien compris ce que le Seigneur a dit, il veut que nous lui soyons consacrés. Que nous lui appartenions à 100%, que nous devenions chacun et chacune pour sa part la propriété privée de Dieu. C'est en cela que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Vous savez, une vie consacrée, c'est une vie épanouie et comblée. Pourquoi? Parce que cette vie, en réalité, elle est ni ennuyeuse, misérable. Pourquoi? À cause de la communion que l'on a avec le Seigneur. Quand vous vous donnez au Seigneur, il vous a révélé sa volonté pour ta vie, c'est ta raison de vivre ça. D'accord? Et là, chaque souffrance, chaque douleur, chaque peine, chaque affliction, chaque détresse, chaque épreuve que tu endures à cause de Christ, c'est un badge d'honneur pour toi. Si tu as été testé à cause de Christ, tu as été éprouvé à cause de Christ, et tu es passé par le tu as été écorché, hein, vous permettez l'expression, à cause de Christ, et tu continues à tenir, ça te donne de la notoriété auprès de Dieu. Voilà pourquoi il est certaines prières, c'est certaines personnes qui le feront, et elles seront exaucées. Parce que ces gens-là ont été testés. Tu vois un peu? Donc ici, l'auteur est en train de dire, on est heureux de vivre cette vie-là, cette vie de consécration, cette vie de renoncement à soi. À vue humaine, on peut te ridiculiser. Il y a des gens qui vont tenir des propos désobligeants à ton encontre. Et ils vont s'en prendre à toi parce que tu ne veux pas les suivre dans leur débordement pour faire ce qui est mauvais. Normalement, dans une société, lorsque quelqu'un qui y est représentait un danger pour la population, d'un seul coup, se convertit, devient un honnête citoyen, normalement, la société doit encourager de tels événements, n'est-ce pas? Mais pourquoi est-ce qu'on s'en prend à nous-mêmes dans nos familles, après notre conversion? Hier, nous étions méchants, nous étions mauvais, on s'est convertis, au lieu que ceux qui nous ont connus méchants et mauvais se réjouissent, ils sont en colère. Pourquoi? Parce que il y a un esprit qui agit de l'autre côté, qui est différent de l'esprit qui vient de maintenant de prendre place en nous. Donc, il y a une confrontation d'esprit. Alors, si nous comprenons la chose de cette façon, là, cette vie de consécration, personne ne nous force à nous consacrer. Il faut que ce soit clair. Personne ne te forcera à te consacrer au Seigneur. C'est une décision personnelle que tu prends. Et quand tu prends cette décision-là, le Seigneur te prend au mot. Et c'est pour cela que Dieu permettra que certaines situations surviennent dans ta vie. Si tu portes du fruit, il va t'émonder pour que tu en portes davantage. Le processus de démondage n'est pas facile. Ça fait mal.
Il y a des moments où il voudra même pas que tu paraisses. Il va te mettre au petit coin là. Il te garde quelque part. Ça fait mal. Il y a des moments où on t'accuse, tu veux te défendre, il te dit, ne dis rien. Alors que brûle en toi le désir de te défendre, de prouver ton innocence, il dit, ne dis rien. Si tu veux aller, il va te dire, on m'a fait plus que ça. Je ne me suis pas défendu. Et il va te citer l'épître de Pierre. Je me remettais au juste juge. Donc vous voyez, la croissance, c'est tout un processus. Donc ici, l'apôtre Paul dira dans Romains chapitre 5, verset 6, car lorsque nous étions encore sans force, Christ au temps marqué est mort pour des impies. Nous étions tous des impies. D'accord? Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Parce que vers la fin, il a dit, agneau de Dieu qui ne voudrait te suivre jusqu'à la mort, toi qui mourus pour nous. Tu vois? Et donc l'apôtre Paul, quand vous essayez de faire l'état des lieux de ce qui arrivait à Paul, à cause de son apostolat, frère, sans vous mentir, s'il faut être sincère, si on prend tout ce qui est arrivé à Paul, on le met à côté de nos champions modernes là, qui sont sous le feu de la rampe, apôtres ceci et tout cela, il peut pas tenir à côté de Paul. Et pourtant ce monsieur, malgré tout ça, l'a continué parce que son amour pour Christ est tel qu'il ne veut pas renier le Seigneur. Dans 2 Corinthiens 4, verset 17, il dit, car nos légères afflictions du moment présent produit pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Vous voyez un peu? Vous avez dit quoi? Légère affliction. Paul, tu sais ce que je travaille? Si Paul te déroule la liste de ce qui lui est arrivé, tu vas te taire.
Ce qu'il appelle légère affliction.
Ce que lui l'appelle légère affliction. Pourquoi? Parce que nous ne regardons pas aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Lorsque vous cessez d'avoir la pensée de l'éternité, il vous sera difficile de marcher dans la sainteté. Il vous sera difficile de tenir ferme contre la compromission. Il vous sera difficile de dénoncer les œuvres infructueuses des ténèbres. Une fois que vous détournez de l'éternité, vous perdez le cap, c'est fini. Vous allez très aisément commencer par faire comme les autres pour dire, ah, pendant longtemps, on a été trop rigide, maintenant il faut baisser la garde, il faut que les gens viennent. Et donc, beaucoup d'églises ont fait ça. D'accord? Ils ont baissé la garde, ils disent non, on va baisser, quand ils vont venir, maintenant on va relever. Ils n'ont jamais pu relever jusqu'à maintenant. C'est pour cela que le monde a envahi les églises. D'accord? Normalement, le monde ne devrait pas se trouver dans l'église. Donc, le problème d'un bateau, ce n'est pas l'eau qui est autour du bateau. Puisque l'eau autour du bateau n'empêche pas le bateau d'avancer. Mais c'est l'eau qui va venir à l'intérieur. D'accord? L'église est là, le monde est tout autour, n'est-ce pas? L'église continue d'avancer, mais lorsque l'eau là, le fleuve là, de l'évangile qu'on nous prêche, des messages qu'on nous prêche, quand ça va envahir l'église va commencer par sombrer. Et c'est en ce moment, quelques générations après, ceux qui ont encore le courage vont dire, autrefois, avant, au jour d'autrefois, ces choses-là ne peuvent pas se passer dans la maison de Dieu. Mais aujourd'hui, ça se passe. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un jour où quelqu'un a baissé la garde. Où quelqu'un a ouvert une fenêtre pour dire, oh, ça ne fait rien. Ça ne fait rien, a fait quelque chose. Et voilà l'état dans lequel nous sommes aujourd'hui. L'église du 21e siècle ne peut pas se comparer à l'église primitive. En termes de qualité de vie, en termes de résolution des disciples, on n'est pas à ce niveau-là. Les théologiens vous diront que quand on prend l'église en Afrique, c'est comme une flaque d'eau, c'est-à-dire une étendue d'eau. Quand vous avancez, vous allez voir que c'est peu profond. C'est ça l'église qu'on a aujourd'hui. Il y a des foules un peu partout, mais la qualité de vie chrétienne, là, la qualité n'y est pas.
N'y est pas.
Et quand on en parle, ceux qui sont dans le cas s'énervent parce que ils n'ont jamais été instruits par la parole. Est-ce que tu as une fois lu la Bible et tu as commencé à pleurer parce que Dieu te corrige? Est-ce que tu as une fois aller à l'église, tu t'assois, on prêche et ce message-là est venu te toucher et tu as commencé à pleurer? Mais si tout ce qu'on te dit à la fin du message, vous applaudissez le pasteur comme s'il vient de faire une belle prestation, tu ne peux pas avancer avec Christ. La vie chrétienne, ce n'est pas un jeu. C'est une guerre qui est en cours. De temps à autre, tu seras appelé à livrer combat. De temps à autre, tu seras appelé à prouver que tu es pour Christ. Donc, si on ne prend pas conscience de cet état de fait, il est tout à fait normal qu'on soit dans l'état où on est actuellement. Donc, dans la chanson ici, comment quelqu'un peut être heureux de vivre une vie de renoncement à soi. Comment est-ce qu'il peut être heureux? Ce qui lui donne la joie, c'est que, à travers sa consécration, il vit une communion. Il a une intimité avec le Seigneur. Il sait que Jésus, là, c'est pas juste un nom, c'est une personne. Pourquoi? Parce que Jésus lui parle. Parce que le Saint-Esprit lui parle. Parce que le Père lui parle. Et quand Dieu parle, il sait que Dieu lui a parlé. La plupart de ceux qui sont superficiels dans leur marche avec Dieu, vous avez une discussion avec eux, vous n'irez pas loin, et vous allez discerner en même temps où ils en sont. Pourquoi? Parce que la vie chrétienne est une vie spirituelle. Si vous êtes charnel, ne vous en vantez pas. C'est anormal pour un chrétien d'être charnel. Parce que la naissance, elle est spirituelle et la vie doit être spirituelle.
Très bien. On va aborder le troisième couplet. Jusqu'à la mort, soumis à ta puissance, je vais d'abord lire et faire écouter la chanson. Juste le troisième couplet à ce niveau-là. Jusqu'à la mort, soumis à ta puissance, nous voulons vivre et mourir sous tes lois. Toi qui pour nous poussa l'obéissance jusqu'à la mort et la mort de la croix. On va écouter la chanson juste à ce niveau. En lisant attentivement ce troisième couplet, l'autre Laurent, je constate que l'auteur désire être soumis à la puissance de Jésus, c'est ça, et veut vivre, mourir sous ses lois. Que nous dit la Bible sur ce vif désir du compositeur?
Bien, vous savez, quand on avance avec le Seigneur, il y a des versets que nous connaissons, que nous avons mémorisés, ce qui est une très bonne chose, c'est vraiment louable. Mais ces versets vont prendre vie dans notre expérience avec lui. Vous savez, nous avons tous ce verset à cœur, que ton règne vienne, n'est-ce pas?
Oui.
Oui, mais dans une expérience donnée de la vie, là, tu vas comprendre ce que Dieu veut dire quand il dit que ton règne vienne.
Que ton règne vienne.
Que ça vienne dans ta vie. Le règne de Dieu, le royaume de Dieu, le principe de gouvernement de Dieu vient s'imposer à toute autre considération dans le monde où tu vis. D'accord? Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite dans ma vie. Cette phrase-là, il y aura des moments dans ta vie où c'est avec des pleurs que tu vas dire ça. De la même façon que Jésus l'a dit dans l'agonie.
Dans le jardin
de Gethsémani. Ce sera avec des pleurs parce que la volonté de Dieu s'impose à toi. Mais la voie à l'issue de sortie de la compromission est juste à côté. Et tu choisis de faire la volonté de Dieu. Et si tu fais la volonté de Dieu, dans ce cas d'espèce, ça va te faire mal. Et là, c'est avec des pleurs que tu vas accepter de faire la volonté de Dieu dans ton vie. Donc, ce règne de Dieu-là, la volonté de Dieu, cette volonté particulière, parce que il y a la volonté de Dieu, d'une manière générale, c'est révélé dans les Écritures. Mais là, il y a la volonté de Dieu particulière à ta vie. C'est-à-dire, il t'a appelé à quelque chose de précis. D'accord?
Oui.
C'est pas tout le monde. Il a appelé les uns apôtres. Les autres, prophètes. Les autres, pasteurs. Les autres, évangélistes. Les autres, docteurs, c'est-à-dire enseignants. C'est pas tout le monde. D'accord? Maintenant, le type d'appel que tu as, ça vient avec une conviction inébranlable. Tu sais qu'il t'a appelé pour ça. Mais cet appel-là, pour qu'il puisse se concrétiser, ça va nécessiter le brisement. Ça va nécessiter que ton moi-là soit pris à partie par la croix de Christ. Ah, donc quand ces choses vont commencer par t'arriver, là en ce moment, tu vas te dire, qu'advienne que pourra, il faut que la volonté de Dieu-là se traduise dans les faits dans ma vie. C'est là où les gens, les gens démissionnent. Parce que lorsque vous démissionnez, une fois que la volonté vous a été révélée, soit dans la parole ou par l'esprit, quand vous démissionnez, vous allez vous soustraire à l'autorité de la parole de Dieu. Ça, c'est un. Et vous êtes en train de vous rebeller contre l'esprit de Dieu. Vous n'êtes plus sous la protection de Dieu. Vous êtes livré à vous-même. Et en ce moment, vous devenez une proie facile. L'ennemi va vous abattre très aisément. Dans Luc chapitre 9, verset 23, il dit, puis il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Vous vous souvenez de ce que Satan dit à Dieu? Ce qu'un homme a là, il le donne pour sa vie. ce qu'un homme a, il le donne pour sa vie. C'est-à-dire que chacun a cet instinct-là de protection de ça, de soi. D'accord? Et donc, là, il a dit, mais je vais toucher ce monsieur-là à un point où on va voir s'il va tenir jusqu'au bout. Donc, là, ici, Jésus est en train de dire, si tu ne peux pas renoncer à toi-même, si tu ne peux pas te charger chaque jour de ta croix, ta croix n'est pas ma croix n'est pas ta croix, chacun a sa croix, chacun a sa circonstance particulière, sa situation particulière, il ne sert à rien de te plaindre sous la croix. Jésus ne l'a pas fait. Donc, tu perds ton temps si tu te plains. Vaut mieux lui demander, qu'est-ce que tu veux, Seigneur? En permettant cette situation, j'ai prié, j'ai jeûné, j'ai chassé les démons, on a prié pour moi, on m'a induit, on a tout fait, mais la situation est toujours là. Qu'est-ce que tu es en train de me dire? Là, il va t'enseigner. Et là, mieux cela vaudra pour toi. Se plaindre ne veut rien dire. Respecter ne veut rien dire. Donc ici, Luc 14, 27 va dire, et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ne peut être mon disciple. Donc, vous comprenez alors, en suivant ce que l'auteur est en train de dire, si Christ a pu accepter mourir pour nous, et quel type de mort? Si à l'époque là, c'était quoi? Des flèches romaines, des lances romaines, et tout ce qu'il voulait, et là on comprend, il va mourir sur le coup. Mais c'était la mort de la croix. Faites un peu vos recherches, vous allez voir ce que représentait la mort de la croix. On t'a humilié. Et cette honte-là va avoir un impact sur toute ta famille. Le moment pour vous dire jusqu'à quel point on est en train de te dire que tu ne vaux plus, tu n'es pas un être humain. C'est pour cela que quand on finit d'enlever ces gens de la croix, on les jette sur la décharge publique. Là où on jette les ordures, là. Leur corps est jeté là-bas, ça va pourrir, pour montrer qu'on ne veut pas de tels individus dans la société. Jésus a vu tout ça là à Gethsémané et il a accepté. Et si quelqu'un a pu payer ce prix pour moi, alors si je prends la décision de le suivre, n'en déplaise au diable et à tous ceux qui sont de leur acabit, lui vais continuer, pas le suivre, c'est la décision que l'auteur est en train de prendre dans cette chanson.
L'affirmation ou les paroles de l'auteur dans l'avant-dernier couplet de la chanson est-elle en conformité avec les Saintes Écritures? Pourquoi je le dis? C'est par rapport à la première phrase, oui, qui dit ceci, « Mais, ô Sauveur, tu sais notre faiblesse, nous tomberons sûrement en chemin si tu ne viens accomplir ta promesse jusqu'à la mort, nous tenir par la main. » Est-ce en conformité? Est-ce qu'on ne peut pas l'utiliser pour dire, bon, on va...
Oui, c'est tout à fait normal de tomber.
De tomber quoi? De tomber des...
Non, la chute est une éventualité dans le processus de la croissance. Je dis bien une éventualité.
Oui, le mot est
ça
bien placé.
Ça peut arriver. Voilà, c'est arriver. Une éventualité dans la croissance spirituelle.
Ce n'est pas une habitude.
Non. Quand quelqu'un a l'habitude de tomber, il n'est pas converti. Il était converti, il a retrouvé la vie. Parce que quand il vit dans le péché, l'Écriture dit, celui qui pêche est du diable. D'accord? Celui qui est né de Dieu ne pratique pas le péché. Il faut toujours prendre les Écritures, laisser l'opinion de qui que ce soit qui vous dit que non, vous savez, je suis loin de l'Esprit, et le Saint-Esprit m'a dit. Si ce que le Saint-Esprit te dit contredit la parole, on rejette ton Saint-Esprit et ce qu'il t'a dit. Pourquoi? Parce que l'Écriture est l'autorité suprême en ce qui concerne notre vie et notre foi. Donc ici, dans 1 Jean chapitre 2, l'apôtre Jean dit, « Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. » Afin que vous ne péchiez point. Et si, éventuellement, et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Donc vous voyez que quelqu'un qui est réellement né de nouveau là, ce n'est pas à cœur joie qui va se livrer au péché. Non.
Et quand il tombe dans le péché, ça, il le regrette.
Il regrette.
Et il se relève rapidement.
Il ne veut plus Donc, 1 Jean chapitre 3, verset 9, quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Pourquoi? Parce que la semence de Dieu demeure en lui. L'Écriture, c'est ce qui nous révèle notre état. Si je dis que je suis chrétien, et que je pratique le péché, ça veut dire que la semence de Dieu ne demeure pas en moi. Mmh. C'est comme ça on lit la Bible. Mmh. Et il dit, et il ne peut pécher. Pourquoi? Parce qu'il est né de Dieu. Mmh. Tu vois un peu?
Oui, c'est clair.
Ah, maintenant, des événements peuvent survenir lorsque, à des moments donnés, nous voulons compter sur nos propres forces. Mmh. En ce moment, la crise ne fera rien pour toi. Mmh. Si tu veux compter sur tes propres forces, il va te laisser. Mmh. Et quand tu vas cogner le mur, tu vas revenir. Psaume 119, verset 67. Mmh. Avant d'avoir été humilié, je m'égarais. C'est le psalmiste qui le dit. Je m'égarais. Maintenant là, j'observe ta parole. Quand l'humiliation est arrivée, il a compris maintenant que la parole c'est ça notre vie. Verset 71, il m'est bon d'être humilié afin que j'apprenne tes statuts. Donc c'est clair.
Oui, c'est clair, c'est clair. Ok, bien, on va aborder la dernière partie, le dernier couplet. Je laisse encore les auditeurs écouter le dernier couplet et là on verra ce qu'il dit, ce que l'auteur a voulu dire. Je relis les paroles du cinquième couplet. Que ton esprit nous guide et nous anime, et que sa flamme ou ta flamme embrasant tous nos cœurs, nous devenions par toi sainte victime sur la mort, même un peuple de vainqueurs. Dans ce dernier couplet, le bien-aimé met en exergue l'action merveilleuse du Saint-Esprit. Quelles œuvres le Saint-Esprit accomplit-il dans nos vies?
Bon, là, quand il dit, par exemple, que ton esprit nous guide et nous anime, là, quelqu'un qui est habitué aux écritures va dire, mais...
C'est normal.
Oui. Tu vois, par exemple, quand ça chauffe dans notre vie, et puis dit, Seigneur, ne m'abandonne pas, et il va te dire, mais je suis à l'intérieur de toi, je suis là. Ouais, on a l'impression, nous, sous l'ancienne alliance, il était à l'extérieur des croyants. Sous la nouvelle alliance, il réside en nous par le Saint-Esprit. Frères et sœurs, une fois que vous avez compris ça, ça va affecter même votre façon de prier. Si tu es réellement converti, tu es enfant de Dieu là, Jésus vit en toi par le Saint-Esprit. Il est à l'intérieur et il parle. Donc là, parce que c'est là, quand le Seigneur dit, il vous guidera, il vous conduira dans toute la vérité. On ne conduit que la personne qui se laisse conduire, n'est-ce pas?
Hein? Autrement dit, on doit se laisser conduire.
Conduire. Tu veux prendre une moto, n'est-ce pas?
On va demander la direction divine.
Ah, tu veux prendre une moto? Celui qui t'a conduit la moto est déjà sur la moto. On te dit, mets-toi derrière. Tu dis, non, moi j'ai envie de me mettre devant. Et dis, moi, alors dis, non, débrouille-toi, mais moi je veux me mettre devant. Tu vois, quand tu vas à la parole pour aller lire la parole, c'est la parole de Dieu. C'est pas la parole de ton pays. Tu demandes à l'auteur de la parole, explique-moi. Et il va t'expliquer. Et quand il t'aura expliqué, tu vas comprendre. Mais si on manque de faire ça là, il y a la confusion. Donc là, nous voyons dans ce texte le langage de la consécration. Parce que quand il dit que sa flamme embrasant tous nos cœurs, nous devenions par toi sainte victime. Quand il parle de sainte victime, c'est la victime des animaux sous l'ancienne alliance là. Lorsqu'on dépose la victime sur l'autel et que Dieu approuve ce sacrifice, souvent il fait quoi? Il envoie le feu dessus. Donc ça parle de la consécration. Et quand cette consécration est approuvée par le Père, le zèle de Dieu maintenant t'anime. D'accord? Et c'est ce qui fera que les gens ne te comprendront pas. Quand tu, tout le temps, on dit, mais toi, mais nous aussi on est chrétiens, mais toi tu en fais trop. Non, c'est ce qui est dans la personne. C'est cela. Donc, le Saint-Esprit qui est en nous, nous guide, nous conduit dans la vérité. Et là, si nous nous soumettons à lui. Eh bien, alors maintenant, Romains chapitre 12, verset 1, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps. Si vous voulez, on peut personnaliser ce verset. D'accord? Je t'exhorte donc, frère, je t'exhorte donc, sœur, par les compassions de Dieu, à offrir ton corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de ta part un culte raisonnable. Si tu ne fais pas ça là, le culte que tu rends à Dieu n'est pas raisonnable. C'est en ce moment quand on te dit, tu vois, il y a des choses qui ne peuvent pas toucher ton corps. Et il y a des choses que tu ne peux pas toucher. Il y a des choses qui ne peuvent pas trouver leur terminus sur ton corps. Quand tu sais, tu appliques ce verset à ta vie, tu es devenu un sacrifice vivant. Et ce sacrifice doit être saint et agréable à Dieu. Automatiquement, il fait quoi? Il nous appelle à la consécration et à la séparation d'avec le monde. C'est pour cela qu'on ne peut pas lire Romains chapitre 12, verset 1, sans lire le verset 2. Mmh. Le verset 2, maintenant, te dit, ne te conforme pas au siècle présent. Mmh. Observe le siècle présent. Qu'est-ce que ce siècle propose? Ne te conforme pas au siècle présent, mais sois transformé par le renouvellement de l'intelligence. Tu sais, si tu te laisses manipulé par le monde, la tendance du monde, la mode du monde, la manière de faire du monde, il te sera difficile d'expérimenter le renouvellement de l'intelligence. Tu n'auras pas la pensée de Christ quand tu fais face à certaines situations. Afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Donc si tu aujourd'hui les gens disent ça, ils disent, non, ce frère aussi c'est un chrétien, mais il est mondain. Il n'y a pas un truc comme ça là dans la Bible. Chrétien mondain, ça n'existe pas. Ou bien un saint pécheur, ça n'existe pas. Ou tu es chrétien, ou tu ne l'es pas. Quand on l'est réellement, la transformation que Christ a occasionnée en nous est manifeste pour les gens qui nous ont connus autrefois. Frères et sœurs, si tel n'est pas votre cas, quand vous ferez face aux épreuves de la vie, vous allez flancher très facilement. Mais si vous vous êtes consacré à lui, et vous êtes conscient de ça, par la puissance de son esprit, il te dirige, il te guide, il y a des choses qui peuvent arriver à l'homme normal, et il va préférer se suicider. Quand ça va t'arriver, tu comptes sur Christ, tu traverses ça, tu grandis en ça, et tu acquiers de la notoriété auprès du trône de la grâce. Quand tu te mets à prier pour une situation donnée, la réponse vient rapidement, les gens sont étonnés. Pourquoi? Tu as été éprouvé. Tu as été testé par Dieu. Et éprouvé par Dieu et approuvé par Dieu. Donc, revenons aux Saintes Écritures pour découvrir pourquoi Christ est mort à la croix. Pourquoi il nous appelle à la repentance. Pourquoi il nous appelle à devenir disciples. C'est ce faisant qu'on peut comprendre ce dont parle cette chanson.
Très bien. On va finir par là, l'autre Laurent. Et cette chanson, l'autre Laurent, cette chanson me rappelle... cette chanson que tu connais certainement, Chrétien jusqu'à la mort.
Ok.
Chrétien jusqu'à la mort. Quand je l'ai vu.
C'est dans
la même lignée. Hein.
Oui.
Voilà, on va finir par là. Il y a ça aussi en éveil. Roseto ide koumé. Voilà, Chrétien jusqu'à la mort. Nous devons demeurer des chrétiens jusqu'à la mort. Alors, on vous laisse avec cette. Jusqu'à la mort de Ruben Saïens, et on se dit au revoir, et on se verra certainement la semaine prochaine, si le Seigneur tardait à revenir. Mais en attendant, écoutez la version Jusqu'à la mort de la chorale. On se dit à dimanche prochain. Bye bye.